Ce soir, donc, nous recevons Anne Cheng. Anne Cheng est née en 1955. Elle est ancienne élève de l'École normale supérieure, agrégée et docteur en chinois. Elle est actuellement professeure à l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO, et chargée de conférences à l'EHESS. Elle est spécialiste d'histoire intellectuelle de la Chine. Elle est vice-présidente de l'Association européenne d'études chinoises, membre de la Société asiatique et de l'Association française d'études chinoises. Elle est membre du comité de rédaction d'études chinoises Asie et collaboratrice de la revue bibliographique de sinologie et du bulletin of the School of Oriental and African Studies. Parmi les publications, elle a publié de nombreux articles, mais elle a publié des ouvrages suivants. Tout d'abord, Entretien de Confucius, publié au Seuil en 1981. Études sur le confucianisme Han, l'élaboration d'une tradition exégétique sur les classiques, publié par le Collège de France et l'Institut des hautes études chinoises, qui s'est paru en 1985. Et son dernier ouvrage, Histoire de la pensée chinoise, publié aux éditions du Seuil en 1997, pour lequel elle a reçu deux prix, le prix Stanislas Julien de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et le prix Danian Bouvray de l'Académie des sciences morales et politiques. Ces prix ont été reçus en 1998. Anne Cheng, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi un débat d'une vingtaine de minutes suivra avec le public. Je vous remercie.
Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de l'Université de tous les savoirs de m'avoir invité à faire cette conférence. Et je remercie également tous les courageux qui ont bravé la tempête pour venir écouter des spéculations sur un sujet aussi abstru. Les réflexions que je voudrais partager avec vous ce soir n'ont rien d'arrêté ou de définitif, d'autant qu'elles m'obligent à sortir quelque peu de mon domaine de prédilection, à savoir l'histoire de la pensée dans la Chine dite classique et le confucianisme ancien. Ce sont très simplement des réflexions en cours, dans tous les sens du mot, puisque j'y consacre depuis un an un séminaire conjoint EHESS Langzhou. J'ai été amenée à m'appuyer sur les travaux de nombre de spécialistes que je citerai in extenso dans la version publiée, et qui serait sans doute plus qualifié que moi pour vous parler de ces questions. Pour autant, je suis heureuse qu'on m'ait fourni l'occasion de m'exprimer sur des problèmes qui me touchent directement dans mon activité professionnelle comme dans ma vie personnelle. C'est en effet autant comme sinologue que comme fille d'intellectuel chinois et comme citoyenne de France ayant une histoire familiale en Chine que je m'interroge sur le devenir de la culture chinoise. Ma question ce soir sera : la Chine a-t-elle quelque chose à dire dans ce monde d'aujourd'hui, qui est déjà celui de demain, à la fois donc global et éclaté ? Alors, si certains ont cru pouvoir prophétiser que la Chine, avec l'immensité de son territoire, la masse impressionnante de sa population et le poids de son passé historique et culturel, est appelé à jouer un rôle déterminant dans le cadre de la mondialisation, les opinions sur ce qu'elle a à dire varient d'un extrême à l'autre. Entre ceux qui voient en la Chine l'interlocuteur par excellence, quand ce n'est pas le seul possible, de l'Occident, et ceux qui, à l'inverse, formulent le constat d'une Chine muette. La question de ce que la Chine a à dire est en effet étroitement liée à celle de savoir si elle est en mesure de parler. Qu'avons-nous entendu d'elle au cours de ce XXe siècle ? Incontestablement, la voix de la révolution communiste, dont nous a parlé Jean-Luc Domnac vendredi dernier, si elle n'a pas été la seule à se faire entendre, a couvert quelque peu les autres de son bruit et de sa fureur, et a notamment, dans sa version maoïste, enflammé toute une génération en Occident. Maintenant que la flamme a perdu quelque peu de son éclat, d'autres voix en profitent pour tenter d'occuper le devant de la scène. Nous assistons depuis ces 20 dernières années au surprenant comeback d'une orchestration confucéenne qui, à défaut de dire grand-chose, en dit tout de même très long sur la situation de la Chine en cette fin de siècle et de millénaire. C'est ce phénomène dont il s'agira de voir s'il est purement ponctuel et conjoncturel ou s'il participe d'un devenir à plus long terme que je vous propose d'examiner. Vous aurez remarqué que tous les termes qui composent l'intitulé de cette conférence sont placés entre guillemets pour en signaler le caractère problématique, ce qui ne les empêche pas, comme c'est souvent le cas, d'être monnayés comme argent comptant dans le discours médiatique actuel. Il s'agira, autant que faire se peut, de les soumettre à un examen critique qui fera suite dans mon exposé au descriptif historique. Nous verrons que le problème commence avec le mot même de confucianisme, dont le « isme » est chargé de recouvrir toutes les complexités d'une réalité historique, intellectuelle, mais aussi sociale et institutionnelle sur quelques 2500 ans. Alors, qu'il suffise pour l'instant de rappeler que le terme fait référence, bien évidemment, à l'enseignement originel dispensé par Confucius aux alentours du 6e-5e siècle avant l'ère chrétienne, que cet enseignement a inspiré et nourri plus de 2 millénaires de développement philosophique, mais que le corpus textuel sur lequel il se fonde est devenu le soubassement idéologique de l'Empire centralisé dès le 2e siècle avant Jésus-Christ, notamment en devenant matière obligatoire pour les futurs serviteurs de l'État. Le dernier avatar en date de cette longue histoire, et l'un des plus spectaculaires, est sans doute le revival confucéen des années 1980, qui m'apparaît comme la combinaison de 2 facteurs essentiels opérant sur des échelles historiques différentes. Alors, d'une part, un facteur de longue durée, culturaliste et identitaire, qui remonte au début du siècle. D'autre part, un facteur conjoncturel, qui traduit une volonté d'intégration dans le nouvel ordre mondial. Alors, pour parvenir à repérer les racines de ce phénomène complexe, il convient donc de cadrer d'abord assez large à l'échelle du siècle qui vient de s'écouler. Quelques dates marquantes suffiront à le baliser du point de vue qui nous intéresse. On remarquera que ces dates déterminent des intervalles d'environ 20 ou 30 ans à la manière de marqueurs de génération. D'abord 1898, ensuite 1919, 1949 et enfin le tout début des années 80. Alors, en 1898, sous ce qui devait être l'un des tout derniers règnes de la dynastie Manchu des Qing, des lettrés regroupés derrière Kang Youwei et son disciple Liang Qichao, alors rassurez-vous, je ne vais pas vous infliger une quantité de noms chinois, pour ceux d'entre vous pour qui ils ne sont pas très familiers, mais ces deux figures sont vraiment des figures fondatrices de la modernité chinoise. Bon. Donc, ces lettrés entreprennent, pour la première fois de toute l'histoire impériale, d'ébaucher une réforme politique en jetant les bases d'une monarchie constitutionnelle sur le modèle du Japon de l'ère Meiji. L'ambition de Kang Youwei est de faire du confucianisme une religion d'État, en imitation de l'essence nationale japonaise, Koktai, dans un cadre institutionnel rénové à l'occidental. Mais, en bon lettré traditionnel, il fonde encore largement son réformisme politique sur des sources canoniques confucéennes et sa tentative se solde par un fiasco total. Ainsi donc, alors que le Japon a su dès 1868 négocier le virage des réformes de Meiji, la Chine a raté la marche de 1898 en continuant de se référer à une tradition canonique qui ne permettait pas de mettre en place un véritable État-nation. Cet échec du côté du traditionnel laisse une béance dans la construction du politique que chercheront à combler les successives révolutions du XXe siècle. En 1911, c'est tout le régime impérial qui s'effondre, laissant place à l'instauration d'une république. Avec lui disparaît le confucianisme institutionnel qui lui avait servi de fondement idéologique. De fait, après un bon millénaire de fonctionnement, le système de recrutement des lettrés fonctionnaires par les fameux examens mandarinaux, fondés notamment sur la connaissance d'un corpus de textes canoniques, est supprimé en 1912, ce qui met fin définitivement à ce qu'un historien a appelé le confucianisme scripturaire. Le deuxième repère important est le mouvement iconoclaste du 4 mai 1919, initialement déclenché par les étudiants de Pékin. Eh oui, déjà. Hein. Alors, si c'est l'annonce de l'octroi au Japon des anciennes possessions allemandes en Chine qui met le feu aux poudres, le mouvement qui marque le début d'une période de forte agitation politique reflète plus largement les frustrations des intellectuels aux prises avec une réalité chinoise humiliante et en mal de modernité. Alors, cette modernité se définit, en 1919, en termes résolument occidentaux, de science au singulier et de démocratie, lesquels font l'objet d'une idolâtrie qui n'a d'égal que la violence iconoclaste dirigée contre la tradition identifiée comme confucéenne. « Abat la boutique de Confucius » est un slogan favori pour ceux qui, comme le grand écrivain Lu Xun, tiennent le confucianisme pour responsable de tous les maux dont souffre la Chine, en particulier de son arriération matérielle et morale. Le confucianisme est ainsi accusé d'avoir instauré et maintenu une structure familiale oppressive, d'avoir imposé aux femmes une soumission quasi totale et d'avoir empêché l'éclosion de tout esprit d'autonomie et de créativité parmi la jeunesse. Bref, pour reprendre l'expression de Lu Xun, d'avoir cannibalisé les virtualités progressistes de la civilisation chinoise. Selon l'historien sino-américain Zhang He, rarement une culture s'est aussi radicalement niée que dans les années qui ont suivi ce mouvement. En se mettant en quête d'un modernisme à l'occidental, les iconoclastes du 4 mai poussent dans le même sens que l'analyse marxiste, qui rapporte le confucianisme en tant qu'idéologie à une infrastructure sociale propre à une période dite féodale unique, même si elle est censée avoir duré près de 3000 ans. Selon la formule chère à Joseph Levinson, le confucianisme peut être ainsi commodément relégué au musée de l'histoire, conservé pour la postérité sans pour autant interférer avec le processus de modernisation. Au tournant des années 1920, un autre diagnostic occidental, celui-là, condamne encore plus radicalement le confucianisme, celui de Max Weber, dont la préoccupation est de montrer les facteurs idéologiques, selon lui l'éthique protestante, dans les origines du capitalisme en Europe. Pensant avoir identifié les conditions matérielles de l'avènement du capitalisme en Chine, Weber en conclut que si le capitalisme ne s'est pas produit, c'est en raison de facteurs idéologiques, au premier rang desquels il place le confucianisme. Du coup, se débarrasser une fois pour toutes de ce poids mort apparaît comme une condition sine qua non de toute velléité d'accéder à une modernité occidentale. À ces diagnostics négatifs s'ajoute le choc de la nouvelle rationalité scientifique, qui détruit la vision cosmologique et holiste prédominante dans la tradition chinoise. De fait, les intellectuels des années 20, qui tentent de préserver la pensée confucéenne, orientent leur résistance en premier lieu contre ce qu'ils appellent l'esprit scientiste, à distinguer de l'esprit scientifique, c'est-à-dire contre la foi sans limite que les modernistes placent en la science. Ainsi, ils ne mettent pas en cause la capacité de la science d'expliquer l'univers, mais ils en contestent l'application au domaine humain, sur lequel ils revendiquent la supériorité de la philosophie de vie confucéenne, élevée au rang de métaphysique et de système de valeurs éthico-spirituelles. Ces nouveaux confucéens, dont certains ont fréquenté les universités japonaises, européennes ou américaines, tentent au fond de donner à l'héritage culturel confucéen une dignité philosophique susceptible de le rendre crédible aux yeux des Occidentaux et de le préserver après la disparition du confucianisme scripturaire et institutionnel. C'est dans cette direction qu'ils recherchent une voie alternative vers une modernité qui prendrait en compte la tradition intellectuelle. Une génération après 1919, 1949 marque, à l'issue du conflit sino-japonais et de la guerre civile, l'établissement par les communistes de la République populaire et la fuite du gouvernement nationaliste à Taïwan, suivie par nombre d'intellectuels hostiles au marxisme. C'est ainsi que l'île est transformée par la volonté de ses nouveaux maîtres et par l'autorité des gardiens du temple en un conservatoire vivant de la culture chinoise traditionnelle. Certains nouveaux confucéens se regroupent également à Hong Kong pour fonder le New Asia College. En 1958, quatre d'entre eux, qui figurent parmi les intellectuels les plus en vue hors de Chine communiste, signent à la une du journal de Hong Kong, la Tribune démocratique, un manifeste adressé au monde, je cite, dans lequel ils supplient, c'est le terme qu'ils emploient, ils supplient les intellectuels du monde entier de les croire quand ils affirment que la culture chinoise n'est pas morte et que la philosophie confucéenne est encore bel et bien source vivante de valeurs. Ce ton proprement pathétique traduit bien l'esprit de toute cette génération de l'exil, celle précisément dont fait partie mon père, qui pour sa part a choisi l'exil en France et qui, je peux vous le dire, a marqué toute mon enfance d'un pessimisme noir quant à l'avenir de la culture chinoise. De toute évidence, il a mis un peu d'eau dans son encre depuis. Alors, toujours est-il que c'est cette génération de l'exil qui a formé les futures têtes pensantes du revival confucéen des 20 dernières années, donc depuis le début des années 80, à commencer par Tu Weiming, dont il sera beaucoup question maintenant, qui, avant de faire une brillante carrière universitaire aux États-Unis, à Berkeley et à Harvard, fut d'abord disciple du philosophe Mao Zedong à Taïwan. Alors que la course à la modernisation dans laquelle était la modernisation d'abord sur le modèle soviétique puis sur le modèle occidental, dans laquelle était lancée la Chine continentale communiste, hein, alors que cette course reléguait nos nouveaux confucéens à une position périphérique et marginale, il s'est opéré donc à partir de ces années 80 un renversement absolument spectaculaire, non pas dans le contenu d'interprétation du confucianisme, mais dans l'évaluation de ce contenu au regard de la question de la modernité. Du statut d'obstacle irréductible, le confucianisme est passé quasiment du jour au lendemain à celui de moteur central de la modernisation. Ce qui est à l'origine de ce renversement a en fait peu à voir avec le confucianisme lui-même, mais bien plutôt avec une situation historique et économique inédite. Après les 10 années de délire utopiste, je reprends une expression de Jean-Luc Domnac, de délire utopiste de la révolution culturelle et la mort de Mao en 1976, le modèle communiste révolutionnaire est abandonné de facto en Chine même, pendant qu'à la périphérie, on assiste à l'essor économique sans précédent dans le siège du Japon des 4 petits dragons, à savoir Taïwan, Hong Kong, Singapour et la Corée du Sud. Du coup, ces marges de l'Empire, en même temps que les valeurs asiatiques, notamment confucéennes, qu'elles revendiquent, se trouvent projetées dans une centralité exemplaire et deviennent l'objet de toutes les attentions et de toutes les émulations, en particulier de la part des Occidentaux. En effet, au moment même où le communisme en Chine, mais aussi en Europe de l'Est, connaît une crise majeure, les sociétés occidentales capitalistes croient observer un tassement, voire un déclin, dans leur développement. Dans ce contexte, les valeurs confucéennes, censées expliquer l'essor d'un capitalisme spécifiquement asiatique, arrive à point nommé pour préconiser de remédier à la défaillance du modèle occidental de la modernité par son dépassement. Alors, si ce renouveau confucéen peut être considéré comme une préoccupation présente chez certains intellectuels chinois depuis déjà les années 20 et 30, le facteur déclencheur du renversement des années 80 est à rechercher dans la situation mondiale et son épicentre à repérer non pas dans les sociétés chinoises à proprement parler, mais dans des milieux de Chinois occidentalisés et anglophones, aux États-Unis et à Singapour. C'est ce qu'on a appelé élégamment les bananes, jaunes à l'extérieur et blancs à l'intérieur. Alors, dès la fin des années 70, On voit le gouvernement singapourien de Lee Kuan Yew projeter, je cite, « l'injection accrue de valeurs asiatiques dans le cursus scolaire comme moyen de contrer l'emprise culturelle de l'Occident sur les jeunes ». Le programme est ensuite mis en place tambour battant sur le conseil d'universitaires sino-américains de renom, Tui Ming en tête, jusqu'à culminer en 1983 dans l'établissement de l'Institute of East Asian Philosophies, c'est-à-dire l'Institut des philosophies est-asiatiques, dont l'objectif avéré est de promouvoir et réinterpréter le confucianisme. Donc, en l'espace d'à peine 5 ans, l'enclave singapourienne se retrouve transformée de toutes pièces en un paradis confucéen, et cela par la médiation de l'anglais. On n'est pas à une contradiction près. Alors, au milieu des années 80, la contagion qui n'épargne évidemment pas Taïwan, Hong Kong ni la Corée du Sud, à l'exception tout à fait remarquable, mais somme toute explicable, du Japon, cette contagion gagne la Chine populaire qui, depuis la fin des années 70, est occupée à liquider l'héritage maoïste et voudrait bien se raccrocher au wagon de l'asiatisme pour, si possible, en prendre la tête. Le confucianisme, vilipendé depuis 30 ans et attaqué, voire physiquement détruit, avec un comble de violence pendant les 10 années de la révolution culturelle qui vient tout juste de se terminer, ce même confucianisme fait l'objet, en 1978, d'un premier colloque visant à sa réhabilitation. Et à partir de cette date, il ne se passera pas une seule année sans la tenue d'au moins plusieurs colloques internationaux sur le confucianisme en Chine populaire. En 1984, une fondation Confucius est créée à Pékin à l'occasion du 2535e anniversaire de sa naissance, sous l'égide des plus hautes autorités du Parti communiste. Dès l'année suivante, Tu Weiming est invité à l'Université de Pékin pour donner une série de conférences qui seront toutes publiées. Au mois d'octobre 1989, quelques mois après le massacre de Tiananmen, le 2540e anniversaire de la naissance de Confucius fournit l'occasion d'un méga-colloque international organisé conjointement par la Fondation Confucius et l'UNESCO. Et l'apothéose est atteinte en 1992 quand Deng Xiaoping, lors de sa tournée des provinces du Sud, cite le Singapour de Lee Kuan Yew comme « modèle pour la Chine ». Cette fièvre confucianiste qui, dans la décennie des années 80, envahit non seulement le monde sinisé, mais le monde tout court, elle gagne même certains pays du tiers-monde sous la forme d'une sorte de bandung idéologique, a absolument tout d'un phénomène mondialisé, puisqu'elle prend son origine dans un confucianisme américain. Je ne résiste pas à l'envie de vous raconter comment Tu Weiming a salué justement l'intérêt que les Américains portaient au confucianisme en citant l'exemple d'un colloque tenu à Atlanta, sponsorisé en partie par Coca-Cola. Alors, cette fièvre se traduit par une prolifération sans précédent de colloques et de publications qui tournent autour de la question: quel est le rapport entre le confucianisme et la modernisation réussie des pays nouvellement industrialisés d'Asie orientale depuis les 30 dernières années? Et plus précisément, le confucianisme joue-t-il un rôle effectif dans le développement du capitalisme et est-il de nature à remédier à ces dysfonctionnements? C'est dans ces termes que se sont interrogés des maîtres penseurs anglo-saxons en matière de développement comme Herman Kahn, Peter Berger et Roderick McFarquhar. Prenant le contre-pied des idées de Max Weber sur l'impossibilité du capitalisme en Chine, du fait de ses fondements idéologiques, ces auteurs établissent un lien de cause à effet entre le modèle de développement est-asiatique et les valeurs confucéennes, à savoir valorisation de la famille, respect de la hiérarchie, motivation pour l'éducation, goût du travail acharné et sens de l'épargne. De manière ironique, ce sont précisément les facteurs qui apparaissaient comme des obstacles au développement capitaliste qui promettent désormais d'épargner aux sociétés est-asiatiques les problèmes affectant les sociétés occidentales modernes. Il y a dans cette hypothèse post-confucéenne l'occasion d'une éclatante revanche sur la suprématie occidentale attendue depuis au moins un siècle par un conglomérat de pays qui voudrait bien se constituer par réaction en région. Alors, Jean-Luc Domnach et d'autres ont bien cerné et identifié tout ce qu'il y a de flou, de problématique, voire de dangereux dans ce qu'ils ont appelé l'asiatisme. Dans un tel contexte, on a en effet tôt fait de se rendre à l'évidence que le confucianisme n'a en réalité rien à voir avec le développement économique, mais qu'il sert surtout les fins des dirigeants autoritaires de Singapour, de Pékin ou de Séoul, qui, confrontés à une accélération soudaine du développement économique que les structures sociopolitiques n'arrivent pas à suivre, trouvent commode de reprendre à leur compte des valeurs confucéennes, garantes de stabilité, de discipline et d'ordre social, par opposition à un Occident repoussoir dont le déclin s'expliquerait par son parti pris d'individualisme et d'hédonisme. À noter que dans ce néo-autoritarisme se rejoignent les ex-idéologues marxistes et anti-marxistes sur un point crucial. Aux représentations utopiques d'un socialisme sans l'Occident, on substitue une aspiration à une modernité industrielle toujours sans l'Occident, que l'on nomme post-modernité et qui pourrait tout aussi bien passer pour une post-occidentalité en lieu et place du post-colonialisme qu'on a connu ailleurs. Or, c'est à cette instrumentalisation idéologique et politique que le nouveau confucianisme contemporain des années 80, éminemment représenté par Tu Weiming, mais aussi par d'autres universitaires chinois établis aux États-Unis, à Hong Kong et à Taïwan, vient apporter une caution philosophique, un supplément d'âme en quelque sorte. Reprenant une périodisation proposée par Mao Zedong, le philosophe dont je parlais tout à l'heure, ces penseurs se voient comme les prophètes d'un confucianisme de la troisième ère qui vient après la phase fondatrice du confucianisme ancien et la phase de refondation post-bouddhique à partir du XIe siècle de l'ère chrétienne, que l'on connaît sous l'étiquette occidentale de néo-confucianisme, donc à ne pas confondre avec le nouveau confucianisme contemporain. J'admets qu'on s'y perd. Alors, il resterait maintenant à dresser un bilan critique, comme je vous l'ai annoncé, après ce descriptif historique, de l'opération post-confucéenne, à la fois au regard de ses propres objectifs déclarés ou implicites, et au regard plus général de la quête chinoise de modernité. L'hypothèse post-confucéenne a-t-elle atteint ses objectifs d'intégration dans le nouvel ordre mondialisé ? Le nouveau confucianisme contemporain représente-t-il une réelle avancée dans la modernité ou n'est-il que la dernière forme prise par un phénomène déjà condamné à la muséification ? Comme on peut s'y attendre, les réponses à ces questions ne peuvent être simples et univoques, car le revival confucéen que nous venons de décrire repose sur un certain nombre de mythes nécessairement problématiques qu'il s'agit d'expliciter. Il faut d'abord commencer par rappeler que le terme même de confucianisme désigne un objet problématique, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'autant plus que le terme même est un néologisme occidental. On peut en effet considérer que le confucianisme est une invention des missionnaires chrétiens, notamment des jésuites, qui sont entre parenthèses responsables de la latinisation du nom de Confucius au XVIe-XVIIe siècle, invention dont se sont ensuite emparés les philosophes des Lumières, suivis par les rationalistes et esprits forts de tout poil, qui ont cru trouver dans le confucianisme une religion sans Dieu. C'est comme par hasard la définition que donne Tu Weiming de la spiritualité confucéenne. Et ce n'est qu'au moment où les intellectuels chinois de la fin du XIXe et au début du XXe siècle, en pleine crise de sens et d'identité, l'appellation de confucianisme est appropriée par l'intelligentsia chinoise pour désigner la culture traditionnelle dans son ensemble, prise comme un tout homogène. Alors, il est évident que cette étiquette masque le fait qu'elle est loin de recouvrir tout le champ de la culture chinoise, nourrie d'une multiplicité, d'une diversité de sources locales et ayant connu des évolutions et ruptures historiques radicales. Or, le confucianisme fondamentaliste de la troisième ère, pour ne pas dire du New Age, que professe un Tu Weiming, est condamné à se présenter sous les traits exsangues d'une spiritualité désincarnée désocialisé et déshistorisé s'il ne veut pas être associé au destin historique du confucianisme en tant que pilier de l'ordre impérial avec toutes les formes d'oppression sociale et politique qu'on lui a connues. Alors, ceci nous amène au mythe central dans le dispositif post-confucéen d'une Chine confucianisée. Il faut décidément prendre un parti résolument anhistorique pour faire croire à l'existence à un moment quelconque et a fortiori à la restauration possible d'une société chinoise unifiée sous la bannière de valeurs confucéennes communes qui ferait primer le communautarisme, les comportements ritualisés, garants de la cohésion et de l'ordre hiérarchique, et l'harmonie, cette fameuse harmonie, censée se propager dans le corps social à partir du noyau central qu'est la famille. Or, si l'on considère la réalité historique et institutionnelle, le confucianisme apparaît avant tout comme une mise en forme des relations sociales venues d'en haut et transmises par une élite organisée dans un État. Dans cette perspective, le revival confucianiste est sans doute en grande partie la revanche, si symbolique soit-elle, d'une élite lettrée qui a pendant deux millénaires assuré une fonction médiatrice indispensable et qui, durant tout le XXe siècle, marqué par la suprématie occidentale et par une révolution communiste paysanne, a eu le sentiment de perdre tout contrôle sur le destin de la Chine. Donc on peut dire que ce retour en force d'un certain confucianisme peut être compris comme une tentative de reprise en main par cette élite. Cependant, le rêve post-confucien ne se limite pas à la reconfucianisation de la société chinoise, quitte à le faire comme on l'a vu en anglais, comme à Singapour. Il pense pouvoir restaurer et élargir l'ancien processus de confucianisation qui avait porté sur des pays considérés comme vassaux ou satellites de l'Empire chinois, et à ce titre sinisés, comme la Corée, le Vietnam ou le Japon. C'est ainsi qu'est lancé le concept d'une Chine culturelle que Tu Weiming se représente exactement comme il le fait pour la société confucianisée, en cercle concentrique. Alors, vous avez comme noyau central, hein, autrement dit la famille, la Chine continentale, Hong Kong compris, Taïwan et Singapour. Ensuite, vient le cercle élargi des communautés chinoises de la diaspora mondiale. Et enfin, le cercle virtuel des individus, intellectuels, journalistes, hommes d'affaires, etc., qui s'efforcent, je cite, hein, de comprendre la Chine et qui sont chargés de répandre la bonne parole dans leur propre communauté linguistique. Autrement dit, ça comprend aussi vous. Hein. Nous pouvons donc espérer avoir à terme une Chine culturelle qui donnera effectivement au confucianisme la dimension d'un système de valeurs éthico-spirituelles universelles, lequel pourra très bien se comparer et entrer en dialogue, hein, ça c'est encore un mot affectionné par Tu Weiming, en dialogue avec les autres grandes religions du monde, le bouddhisme, l'islam et surtout le christianisme, dont il s'agit avant tout en fait de casser le monopole. Ce qui est perceptible dans ce délire mondialomaniaque, c'est une trace encore vivace de la vision de Kang Youwei qui, à la fin du XIXe siècle, persistait à envisager la Chine non pas comme le centre du monde, mais tout simplement comme le monde. En chinois, tianxia, c'est-à-dire tout ce qu'il y a sous le ciel. Le rêve d'une Chine culturelle est donc le signe qu'une certaine élite ne s'est toujours pas résignée à renoncer définitivement à cette image de l'universalité à la chinoise. Mais le plus pathétique, c'est qu'un tel rêve est en même temps un aveu d'impuissance. Faute de pouvoir exister autrement, la Chine sera culturelle ou ne sera pas. Il est clair aussi que ce rêve d'un pan-confucianisme vient en doubler un autre, beaucoup plus explicitement hégémonique, la Chine populaire, hein, à savoir celui de la Chine populaire, qui prend en marche le train du discours asiatiste en essayant d'en prendre la tête, à la fois à travers le rêve de la grande Chine, hein, on l'a vu avec la récupération de Hong Kong et maintenant les prétentions sur Taïwan, et la prétention au leadership dans la région. Mais la Chine ne peut faire valoir sa prétention à une universalité autre que celle de l'Occident qu'en termes culturalistes, à savoir en brandissant la bannière des valeurs asiatiques, comprenez confucéennes, face aux fameux droits de l'homme dont les Occidentaux se font volontiers les champions. À tel point que la question des droits de l'homme est devenue une partie intégrante du protocole, la tarte à la crème, pour s'exprimer plus crûment, des visites officielles des hommes d'État européens ou américains en Chine, sans d'ailleurs qu'on ait jamais noté que la démarche soit suivie des faits. On en a encore un exemple tout récent avec la visite de notre président à Pékin. Pour quitter le terrain caricaturalement idéologique et tenter de répondre finalement à la question du rapport de la Chine à la modernité, il reste à mon sens encore deux points à souligner. Nous avons vu plus haut que l'iconoclasme du 4 mai 1919 avait acculé les défenseurs du confucianisme à une véritable invention de la tradition, fondée sur le présupposé d'une continuité entre passé et présent. Mais, alors que les intellectuels de l'immédiat après 4 mai avaient encore une connaissance et une expérience directe de la dite tradition, ceux de l'après-révolution culturelle sont pour la plupart coupés du passé, aussi bien proche, du fait d'une amnésie tout à fait voulue par les dirigeants, que plus lointain. Aux yeux des jeunes philosophes chinois des années 80 et 90, Heidegger et Derrida sont plus familiers que Confucius. Un exemple tout à fait représentatif est la série télévisée « L'élégie du fleuve » He Shang, diffusée en Chine populaire entre 1988 et 1989, avec un retentissement considérable. Et cette série télévisuelle me paraît emblématique d'une génération coincée entre la perte de la réalité du passé et l'incapacité à surmonter par un discours interprétatif cohérent une idéologie présente que l'on rejette. C'est en cela que le revival confucéen peut faire intervenir de manière providentielle l'illusion de pouvoir rétablir le lien entre ces deux pertes, entre ces deux oublis, avec, en prime, l'accès à une prétendue post-modernité. Or, cette hypothétique ouverture sur la post-modernité, et ce sera mon dernier point, n'est qu'un trompe-l'œil et une fuite en avant. Même si ça n'est pas souvent souligné, il m'apparaît que le phénomène post-confucéen qui nous a occupés ce soir est à mettre en rapport, en amont, avec l'échec de la tentative de réforme de 1898, et plus particulièrement avec celui du projet universaliste et culturaliste de Kang Youwei que nous avons décrit tout à l'heure. À bien des égards, le nouveau confucianisme contemporain peut se comprendre comme une compensation pour le ratage de la mutation politique en Chine à la fin du XIXe siècle, qui a eu pour conséquence le vide créé par la disparition des institutions et de la légitimité impériale et l'incapacité de les remplacer par une construction de la modernité sous forme d'État-nation. Un contre-exemple intéressant me paraît fourni par le Japon, qui, on s'en souvient, a su négocier le virage de Meiji et a été de manière significative relativement peu concerné par la fièvre confucianiste. Donc, faute d'une construction politique dans la durée, le discours post-confucéen ne peut se tenir que dans une fuite en avant, en s'imaginant, après avoir fait l'impasse sur la modernité, pouvoir passer directement à une hypothétique post-modernité. Or, on peut se poser la question, le confucianisme, dans toutes les dimensions qu'il a prises au XXe siècle et qu'il prend encore actuellement, son caractère d'essence nationale, de pilier des valeurs asiatiques, de caution des régimes autoritaires, de facteur d'explication de la prospérité économique, etc., etc., ce confucianisme à tout faire suffira-t-il pour compenser une construction du politique encore à faire? La question plus spécifique qui se pose actuellement en l'an 2000, après le sérieux revers qu'a été la crise de 1997-98, est de savoir ce qu'il advient du discours post-confucéen. Alors, force est de constater que l'excitation des années 80 est notablement retombée, même Tu Weiming s'est un peu calmé, on ne l'entend plus beaucoup ces derniers temps. La tentative post-confucéenne de participer au discours de la globalisation semble avoir eu, en fin de compte, pour enjeu central, bien plus l'intégration au capitalisme mondial que le confucianisme. Est-ce à dire que ce pauvre confucianisme est définitivement réduit au statut d'idéologie ou d'objet de musée, sans rapport avec une quelconque réalité sociale? Il semblerait que oui. Le constat est amer, je vous l'accorde. Ceci dit, en dehors du tapage médiatique et idéologique, la réflexion sur le confucianisme continue chez des intellectuels chinois qui ont au moins le mérite de ne plus se percevoir comme des gardiens du temple et qui ont aussi le mérite d'avoir pris la juste mesure du monde, un monde pas seulement global, mais aussi et surtout éclaté. Merci.
En vous entendant, je ne suis pas un spécialiste, j'allais dire, de la philosophie chinoise, mais je connais un petit peu ce qui s'est passé en Asie sur le plan économique. Et il me semble tout de même qu'il y avait des particularismes assez extraordinaires qui tendent à s'effacer aujourd'hui par la volonté de l'Occident. Il y a eu un modèle asiatique, qui était peut-être un modèle qu'on pourrait appeler un modèle japonais, qui a permis un développement extraordinaire de l'Asie et que la Chine avait pratiquement adhéré depuis 1978. Considérez-vous donc aujourd'hui, en vous entendant, il me semble dire que l'Asie, en particulier la Chine, adhère totalement à toutes les valeurs de l'Occident et fait disparaître toutes ces valeurs? Vaste question, mais pouvez-vous nous éclairer par rapport à votre conclusion?
Là, je vous répondrai que je ne peux pas véritablement vous répondre sur le terrain de la théorie économique qui n'est vraiment pas mon domaine. Simplement, ce que j'ai voulu en fait vous exposer ce soir, c'est donc ce dernier avatar sous lequel se présente à nous donc la tradition confucéenne. Ce que j'ai voulu dénoncer, c'est évidemment l'instrumentalisation idéologique et politique qui en a été faite. Il me semble que il faudrait de toute façon dissocier le thème du modèle de développement est-asiatique de ce que la tradition confucéenne peut nous apprendre. C'est cette dissociation que j'ai voulu introduire ce soir. Mais évidemment, je n'essaye pas de jouer les Cassandres ça m'est très difficile en fait porter un regard prospectif sur ce qui va suivre. Mais il semblerait que, en tout cas sur le plan culturel, l'univers chinois soit en train d'aller plutôt vers un modèle éclaté, enfin si on peut appeler ça un modèle, en tout cas vers une sorte d'éclatement des modèles plutôt que une sorte de modèle unifié. Voilà.
Une question maintenant à notre gauche. Oui. Monsieur, levez-vous s'il vous plaît.
Bonsoir. Est-ce qu'on lit vraiment Confucius en Chine ou dans le monde chinois? Et est-ce qu'on est maintenant un Chinois moderne et capable de comprendre Confucius, ou du moins ses textes, sans l'aide d'explications?
Est-ce qu'un Chinois contemporain, sans formation spéciale, est capable de lire Confucius dans le texte? Non. Au même titre qu'un Européen contemporain, sans aucune formation dans les lettres classiques, ne peut pas lire Cicéron dans le texte. Alors maintenant, est-ce que il est capable de comprendre Confucius? Oui, enfin tout autant que n'importe qui. Je veux dire, avec bien sûr les béquilles qu'il faut, tout le monde a droit à une interprétation, en fait, à une lecture. Oui. Je serais assez d'accord avec vous, parce que l'enseignement confucéen, en tout cas tel qu'il se présente, par exemple dans ses entretiens, est, comment dire, une parole qui est tout à fait fragmentaire. Disons que l'état du texte, des entretiens, ressemble un petit peu, pour vous donner une référence que vous comprendrez peut-être un peu mieux, comparable à l'état du texte des évangiles. Enfin, c'est un état extrêmement fragmentaire, mais à travers lequel on perçoit quand même une certaine parole. Maintenant, effectivement, l'ériger en système, ça a été un petit peu le travail justement de ces nouveaux confuciens du XXe siècle. Et là, je crois qu'on en perçoit en effet les limites et les dangers.
Une question maintenant à l'autre droite. Monsieur, levez-vous, s'il vous plaît.
Vous avez parlé dans le renouveau confucéen de liens avec les États-Unis, Singapour, donc un monde américanisé, anglophone. Ça m'a fait penser à la secte. Alors, on sort du confucianisme, mais ça a l'air de faire trembler le gouvernement chinois actuel. Et j'aimerais savoir, je sais que ça n'a pas grand-chose à voir avec le confucianisme, mais dans ses liens avec les États-Unis, ça me fait penser à la secte Falun Gong. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots? Je sais que ça sort de l'exposé, mais est-ce que vous avez quelques éclaircissements à apporter?
Oui, alors là, je crois qu'on sort effectivement du champ. Disons que là, je peux répondre seulement sur effectivement la différence de réaction qui est tout à fait significative de la part des dirigeants de Pékin. C'est-à-dire d'un côté, c'est-à-dire dans le cas du confucianisme, en fait, une appropriation immédiate et instrumentalisée, en fait, de la manière la plus brute, et de l'autre, comment dire, une relégation et un rejet tout à fait ouvert, parce que justement, on perçoit là, au contraire, ce qu'a toujours craint en fait l'Empire chinois, c'est-à-dire la formation d'un État dans l'État. Alors qu'on ne court pas ce risque avec le confucianisme qui, lui, a été le soubassement même de l'État. Donc là, je crois qu'effectivement, nous avons deux situations extrêmement différentes, même si elles partagent la même source.
Une question tout en haut, monsieur. Merci de vous lever.
Oui, bonjour madame. Donc je ne suis pas spécialiste de la Chine, et ce sera peut-être une question primaire, mais je voudrais avoir une réponse claire si possible. Vous avez dit depuis 1976, donc il y a un renouveau du confucianisme, repris par l'État, si j'ai bien compris, suite à leur observation économique sur les petits dragons, pour reprendre votre expression. Est-ce que ce ne serait pas dans la grande sagesse asiatique pour le régime communiste en place en Chine, au regard de ce qui se passait dans les autres pays communistes, où on voyait déjà quelques lézardes, est-ce que ce n'est pas un moyen pour ce régime communiste de récupérer cette spiritualité confucianiste, pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir?
Oui, enfin là, je crois que vous avez mis effectivement le doigt sur ce qui a intéressé les dirigeants de Pékin dans ce confucianisme nouvelle formule, c'est que précisément ils y voyaient le moyen de remédier en fait à la faillite de l'idéologie marxiste. Je dois dire que j'ai observé ça de près. Parce que je me suis trouvée en fait en mission à Pékin, enfin non pas invitée au même titre que Tu Weiming, mais invitée par l'Académie des sciences sociales de Pékin en 1986. Et là, en fait, j'ai pu voir à quel point dominait ce besoin idéologique de remplacer justement une idéologie en faillite par une sorte de, comment dire, oui c'est ça, d'idéologie de l'ordre social et des valeurs dites morales. Là je crois qu'on a un retour en force de la loi et de l'ordre moral d'une certaine façon. Parce que en fait quand vous vous êtes confronté à une société qui est jeune, hein, c'est-à-dire que, bon, bien sûr, on parle toujours de la masse qu'est la population chinoise, mais il faut aussi préciser qu'il s'agit en fait d'une population en grande partie jeune. Hein. Comment est-ce que vous faites justement pour essayer de la tenir une fois que le carcan de l'idéologie marxiste a montré en fait ses carences, enfin c'est le moins qu'on puisse dire, enfin qui de toute façon dans les années 70, surtout après la fin de la révolution culturelle, personne n'y croit plus. Donc il fallait absolument trouver quelque chose pour combler le trou. Donc est-ce que j'ai répondu clairement à votre question?
Messieurs là, sur le...
Est-ce que dans le monde moderne, il n'y a pas un manque d'idéologie, y compris dans le monde occidental, à part l'individualisme? Et finalement, le souci de l'intérêt des néo-confucéens serait tout simplement de rechercher, comme bien d'autres d'ailleurs, une idéologie qui se rattache plus ou moins à Confucius, mais en fait de lutter contre cette tendance à l'individualisme forcené.
Oui, enfin là, je crois que le XXe siècle est probablement, enfin je suis en train de dire quelque chose d'une platitude à pleurer, mais le XXe siècle aura été probablement le siècle des idéologies. Simplement, mais en fait, je crois que à la fin de l'an 2000, nous avons peut-être déjà un petit peu de recul pour voir justement quelles sont les limites des idéologies. Dans le cas de cette idéologie post-confucéenne, je crois que nous avons effectivement, comme vous le soulignez, quelque chose que l'on retrouve ailleurs, mais en même temps qu'il y a quand même des racines, et c'est ça sa force justement, qui a ses racines justement dans une pratique politique millénaire, je peux dire. La Chine, c'est ça que j'ai voulu souligner en fait dans ma conclusion. La Chine s'est perçue pendant à peu près 2000 ans comme une sorte de d'entité, non seulement en fait qui serait en fait placée au centre du monde, mais qui était en fait le monde civilisé à lui tout seul. Là, je crois que nous avons en fait quelque chose qui est sans doute en fait la dernière manifestation en fait de cette vision de l'universalité chinoise. Et je crois que maintenant, tous les signaux culturels qui nous parviennent de la Chine nous montrent que nous sommes en train de sortir de cette époque, je pense.
Une question là, monsieur, levez-vous.
Est-ce que vous ne pensez pas que le confucianisme a quelque chose à apporter aux autres pays que la Chine? C'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui sont importantes dedans et qu'elles peuvent jouer un rôle plus ou moins important, je ne sais pas. Si vous parliez de l'UNESCO tout à l'heure, s'il n'y a pas un héritage pour le monde, etc.
Oui, enfin, tout à l'heure, j'ai signalé la participation de l'UNESCO à ce colloque de l'après Tiananmen, parce que ça me paraissait tout à fait significatif. Bon, la question que vous me posez, en fait, est posée à quelqu'un qui est converti d'avance. Je passe mon temps, ma vie, mes journées à enseigner non seulement en fait les textes confucéens, mais aussi en fait d'autres grands textes de la tradition chinoise. Mes étudiants pourront porter témoignage, ça montre bien que je pense effectivement que ces textes ont encore quelque chose à dire. Simplement, le danger est précisément de l'instrumentaliser.
Une question sur le côté là-bas.
Ni hao, mais j'ai appris à dire bonjour en chinois maintenant.
Bravo.
Bon, mais j'ai une remarque qui va amener à la question. La référence, d'après ce que j'ai compris, le confucianisme, c'est référence à travail, famille, patrie, et ça fait froid dans le dos. Alors, puisse la Chine prendre référence sur ce qui s'est passé au XXe siècle pour ne pas faire travail, famille, patrie et compagnie. Bon, alors je voudrais savoir comment on peut faire la Chine pour ne pas faire référence à ces trucs travail, famille, patrie, puis j'en passe des moins bons. Merci.
Oui, enfin, travail, famille, patrie, c'est évidemment une forme extrêmement caricaturale que prend cette hypothèse post-confucéenne. Hein. L'hypothèse post-confucéenne est en elle-même en fait quelque chose d'assez réducteur. Et là, ce que vous, enfin, le résumé que vous en proposez est encore plus réducteur. Bon, pour faire justice un petit peu à cette hypothèse post-confucéenne, bon, c'est quand même un petit peu plus subtil que ça, disons. Là, je crois que nous arrivons à un stade, et je pense que ce qui s'est passé en juin 89 montre précisément que ce programme, en fait, ne séduit personne. Enfin, je veux dire, la jeunesse chinoise, en fait, est absolument sourde à ce genre de message. Par conséquent, rassurez-vous, je ne pense pas que ce soit là l'avenir de la Chine du 21e siècle. Hein.
Nous prendrons encore deux questions, une là-haut, monsieur, allez-y.
Oui,
tout en haut.
Est-ce que il n'est pas possible de faire un parallèle entre la Chine et l'Europe? Je veux dire, l'Europe s'est aussi crue pendant plus d'un millénaire seule au monde, comme la Chine. Il y a un texte fondateur en Europe, c'est la Bible, et qui a donné naissance à toute une culture judéo-chrétienne. De la même façon, il y a Confucius en Chine, et qui a sans doute donné naissance également à toute une, non pas une pensée, mais une culture. Est-ce qu'on ne peut pas faire un parallèle entre les deux ?
Oui, certes, et c'est d'ailleurs en fait dans la confrontation justement de deux blocs que se présente justement ce confucianisme postmoderne dont je viens de parler. Ceci dit, justement, en fait, un auteur que j'aurais pu citer le fameux Samuel Huntington, en fait, qui a publié cet ouvrage, bon, qui a eu un certain écho, en fait, au moins dans les milieux asiatiques. Sur le clash des civilisations. Bon, alors évidemment, on peut se figurer la chose de cette manière. Je crois qu'il y a quand même une précision à apporter à ce que vous dites, c'est que l'Europe, malgré tout, est d'abord polyglotte. Hein, c'est-à-dire que tous les problèmes qu'elle connaît actuellement, en fait, tiennent d'abord en fait à ce caractère polyglotte. Hein. Et par contre, ce qui n'a pas été le cas de la Chine, malgré justement la diversité de ses dialectes. Il y a quand même dans cette culture chinoise une unité de l'écriture qui fait que nous ne sommes pas dans le même modèle. En Europe, il y a quand même en fait un certain pluralisme que l'Europe actuelle évidemment essaye de mettre en avant. Et ça, je crois que c'est un point de différence fondamental.
Une dernière question, monsieur, levez-vous, merci.
Bonsoir, madame. Merci beaucoup de votre exposé d'une clarté pénétrante. Je vous pose à propos de l'écriture chinoise. Après la guerre, je crois qu'en Chine continentale, on a adopté une réforme audacieuse de l'écriture. Pour cela, est-ce que les jeunes Chinois de continent n'ont pas de certaines difficultés de lire le texte de Confucius, tandis qu'en Hong Kong et à Taïwan, on garde encore l'écriture authentique? Dans ce cas-là, les jeunes Taïwanais et les Hongkongais doivent avoir plus de facilité de lire le texte. Alors, pour les jeunes Chinois du continent, peut-être ils pourraient être plus à l'aise s'ils étaient anglophones et francophones de lire le texte de Confucius en anglais ou bien en français. Merci.
Oui, Oui, vous faites allusion effectivement à cette mesure prise par le gouvernement de la Chine populaire après donc ce qu'ils appellent la libération donc de 1949, qui a été la simplification d'un grand nombre de ce qu'on appelle, à mon avis à tort, en fait, des idéogrammes. Alors, et c'est cette forme nouvelle d'écriture que les jeunes générations donc apprennent et que nos étudiants ici apprennent également. Quand je écris en caractère traditionnel, tout le monde hurle, etc. Bon. Alors, je crois que il y a ici effectivement un facteur supplémentaire pour contribuer justement à cet oubli du passé dont j'ai parlé tout à l'heure. Ceci dit, il n'y a pas que ça. Je crois que entre la Chine populaire et Hong Kong et Taïwan, par exemple, où les caractères n'ont pas été simplifiés, il y a en plus le facteur justement révolution culturelle, c'est-à-dire que la révolution culturelle a véritablement représenté une rupture. Là aussi, c'est quelque chose dont j'ai été témoin. Donc, je crois qu'à plusieurs titres, effectivement, on peut estimer que à Hong Kong et Taïwan, en fait, les gens sont encore un peu plus, disons, plus proches de leur héritage culturel. Mais c'est aussi en train de changer. Et là aussi, sous l'influence de l'occidentalisation.
Anne Cheng, je vous remercie.
Merci à tous.